Ces températures proches demain après-midi à Paris, à Lyon, de 17 degrés, de 19 degrés à Nantes, atteindront sur le sud-ouest et du midi 21 à 23 degrés.
C'était le journal d'Éric Delvaux. Dans un instant, Internet, que deviennent nos données personnelles?
J'aimerais tant que mon père soit encore là. C'est grâce à lui que j'ai pu continuer mes études. Grâce à la rente éducation de l'OCIRP. Dans une seconde, les résultats du bac. Ouf, je suis reçue.
Orphelin, des études à poursuivre. Avec la rente Antissimo Junior, l'OCIRP a imaginé le pire pour que vous puissiez vivre le meilleur. 4 millions de salariés et 600 000 entreprises sont garanties par l'OCIRP, Union d'institutions de prévoyance. D'autres histoires de famille sur aucoeurdelafamille.fr.
France 3 vous donne rendez-vous.
Consommation, environnement, santé.
Pour comprendre les codes de notre quotidien, éviter les pièges, saisir les opportunités, je vous donne rendez-vous tous les jours en direct dans À la carte.
Par téléphone, internet ou SMS, c'est vous qui posez vos questions.
Entouré de spécialistes, j'apporte des solutions concrètes et à la carte.
À la carte, un nouveau magazine entièrement à votre service, présenté par Valérie Durier, du lundi au vendredi en direct à 16h30 et sur France3.fr.
France 3, de près, on se comprend mieux. France Inter présente Stéphane Guillon dans En avant la musique. Le 20 novembre au Casino de Paris et en tournée dans toute la France.
Montfort Nelson, célèbre machine à postillonner. Les athlètes préféraient perdre plutôt que passer entre ses mains.
Retrouvez l'humeur de Stéphane Guillon du lundi au mercredi à 7h55 et sur franceinter.com.
Corazón Latino.
Ici Radio Canada.
BBC Radio 4. It's 6 o'clock.
Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes tout nus devant des millions de personnes, 1 milliard 500 millions d'internautes sur la planète web. Que deviennent toutes les données personnelles que nous laissons dans nos ordinateurs? Les scandales, les affaires assez angoissantes se multiplient. Nous irons en Norvège, en Angleterre, en Allemagne et au Portugal. La fabuleuse année de l'Espagne en sport. Nouvelle illustration ce week-end en cyclisme et en tennis. Pierre Kérol, juste avant 19h. Dans cette émission encore, les films étrangers qu'il ne faut pas rater cette semaine, et puis musique bien sûr, dominante jazz aujourd'hui. C'est parti pour notre petit tour quotidien de la planète. Bienvenue.
Et pourtant elle tourne, saison 3. Bruno Duvic.
Velkommen til Kveldsnytt. Finansminister Kristin Halvorsen kaller skattedirektøren inn på teppet etter at personnummeret til hele den voksne norske befolkning sendt mediene ved en glipp.
C'était vendredi dernier, ouverture des journaux télévisés en Norvège. L'information concernait près de 4 millions de personnes. 4 millions de Norvégiens dont les déclarations fiscales avec code personnel ont été livrées aux médias sur CD-ROM. Qui les a récupérés, qui les a envoyés? Le fisc à Oslo a lancé une enquête. Données personnelles perdues sur un disque, vendues sur clé USB, circulant sans aucun contrôle sur le net. Notre vie est sur la place publique. Exemple extrêmement concret pour commencer. Voici l'histoire d'une dame qui regrettera longtemps un moment d'égarement. Elle est racontée par Daniel Kaplan, le délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération qui fait de la veille technologique sur le net.
L'exemple le plus connu, même s'il est un peu ancien aujourd'hui, c'est la femme à la crotte de chien, qui est une Coréenne qui va dans le métro avec son chien et son chien se fait une crotte dans le métro. Et quelqu'un lui dit, vous pourriez quand même ramasser, elle était mal lunée, elle dit non, pas question, et puis elle engueule la personne qui l'avait demandé. Mais un Coréen choqué prend sa photo et rentre chez lui et publie la photo de cette dame en disant, regardez un peu ce qu'elle a fait. Alors effectivement, on voit le chien, la crotte, la dame. Et immédiatement, on recherche, mais c'est qui cette fille-là? C'est vraiment un scandale. Assez rapidement, quelqu'un la reconnaît. On commence à dire qui elle est, où elle travaille. Des forums s'ouvrent pour dénoncer cette attitude, etc. Et cette fille a dû changer de boulot, faire des excuses publiques. D'ailleurs, c'était son chien qui a fait des excuses publiques. Et voilà, a dû un peu changer de vie à cause de ça. Mais il y a d'autres exemples d'un Chinois qui était très très fâché contre sa femme, parce que visiblement, elle le trompait. Ou d'autres l'ont aidé à exposer la femme infidèle.
Sur Internet.
Oui.
Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir Bruno.
C'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Vous avez enquêté sur l'utilisation de nos données personnelles sur le net. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les premiers à se mettre à nu, ce sont les internautes
eux-mêmes. Oui, c'est nous. Et particulièrement avec l'émergence des sites de réseaux sociaux. 580 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est pratiquement un internaute sur deux. Des internautes qui mettent des informations de plus en plus personnelles, telles que leur orientation sexuelle, religieuse ou encore leur opinion politique, des photos de leurs vacances, de leurs soirées parfois un peu trop arrosées. Et finalement, quand on tape le nom d'une personne dans un moteur de recherche, eh bien, on peut déterminer un profil. C'est ce qu'on a fait avec Stéphane Grégoire, chargé de mission au Forum des droits sur l'Internet. Donc là, on prend l'exemple de Michila S. On va pas donner son nom de famille.
Voilà, on va être respectueux de cette dame qui est une fan de Barack Obama. Michila, donc, et on va chercher. On va partir très directement depuis un moteur de recherche. La chance, le premier site qu'on prend, on a des photos, donc comme on a vu sa photo sur son profil Facebook, on va pouvoir se rendre compte un petit peu plus de qui c'est. Alors, il y a effectivement un certain nombre d'informations. Pour l'essentiel des informations qu'on a trouvées, c'est visiblement elle qui les a mises en ligne. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle avait forcément conscience du fait qu'elle donnait tous ces éléments sur elle? Est-ce qu'elle avait conscience que d'autres pouvaient associer leurs propres informations à l'information qu'elle mettait, et de ce fait qu'on pouvait rassembler des informations qui la concernent pour voir d'où elle vient, ce qu'elle faisait, qui sont ses amis, qui sont ses parents, comment est-ce qu'elle se déplace, puisqu'on a trouvé des informations comme ça, quels ont été ses voyages. On peut trouver encore des informations sur son environnement professionnel. Donc toutes sortes d'informations qui sont mises à disposition par cette personne, mais avec peut-être l'idée que ça n'intéressait que ceux qui lui étaient très proches ou que ça n'était pas visible. Facebook is a crime when people have too much time sending me requests, IQ and brain test. It's no fucking joke, I don't like to super poke, scrabulous hotness, update my status, I'm getting bored of Facebook. Voilà, et ça sont quelques internautes énervés par Facebook qui se sont défoulés en musique. Alors Hélène Chevalier, d'accord, on met beaucoup de nous-mêmes sur tous ces réseaux sociaux ou sur Internet, mais au départ on contrôle ce qu'on met sur l'ordinateur.
C'est vrai que l'internaute sait de plus en plus jouer avec son identité, par exemple avec les formulaires qui permettent d'accéder à un site genre vous voulez écouter de la musique en ligne, eh bien vous n'allez pas forcément mettre votre vraie adresse ou votre âge ou votre sexe. Pareil sur vos profils de réseaux sociaux, on a tendance à éditorialiser, améliorer un petit peu la vérité, voire carrément mentir. Mais il y a une chose que l'on ne peut absolument pas contrôler, c'est sa trace. C'est ce que m'a expliqué Daniel Kaplan de la Fondation Internet Nouvelle Génération qu'on entendait justement en introduction de l'émission.
Les plus clairs dangers sont probablement d'abord dans la collecte de traces. Si on sait tracer mes déplacements et mes paiements et mes interrogations et mes usages d'un certain nombre de machines et ou de services, on peut finir par reconstituer un portrait concret quotidien de ma vie, de mes aspirations, de mes petits secrets, etc., extrêmement riche. Donc ça, c'est la première source de vrais risques. Et la deuxième, c'est bien sûr la possibilité de croiser des volumes d'informations sans commune mesure avec ceux dont on disposait il y a encore quelques années, qui petit à petit peuvent se recouper autour d'une personne. Et ça, c'est deux choses auxquelles l'individu n'a pratiquement pas accès.
Voilà, nous sommes repérés. Et au Portugal, c'est même une pratique institutionnalisée par le gouvernement depuis 2 ans. Bonsoir Olivier Bonamici.
Bonsoir.
Pour inciter les contribuables à régler leurs impôts, les noms des mauvais payeurs sont divulgués sur le net. Vous en aviez parlé l'an dernier, dans Et pourtant elle tourne. Alors est-ce que l'État a récupéré beaucoup d'argent?
Eh bien, écoutez, si on s'en fie aux chiffres officiels, le gouvernement portugais a récupéré 500 millions d'euros, c'est pas mal, hein. Il est important quand même de rappeler en quoi consiste cette mesure. Le gouvernement portugais envoie d'abord un mail à chaque contribuable qui doit de l'argent aux impôts. Et si la situation n'est pas régularisée, eh bien le nom du contribuable apparaît sur le site internet du ministère des Finances. Alors c'est une liste qui est facilement consultable puisque c'est l'un des sites les plus visités au Portugal, puisque c'est là qu'on dépose par exemple sa déclaration d'impôts. Actuellement, cette liste comprend 13 000 noms, c'est beaucoup plus qu'il y a un an, et ces noms sont classés dans deux catégories, il y a les particuliers et les entreprises, et puis il y a les sous-catégories en fonction du montant à dette, moins d'1 million, moins de 150 50 000 euros, etc., etc. Et c'est à partir de 7 500 euros que votre nom se retrouve affiché sur Internet. Si vous devez 7 350 euros, pas de problème, vous n'apparaissez pas.
Et comment réagit l'opinion publique?
Bah, ça marche pas mal parce que c'est une mesure assez populaire parce que les contribuables prennent peur, et c'est l'objectif d'ailleurs, et ils règlent leurs dettes. Et puis, il y a le côté populiste. Hein, certains espèrent peut-être trouver dans cette liste qui sait le nom de leur voisin. Oui. Et puis, certains aiment connaître l'identité des mauvais payeurs. Ce sont parfois des stars du petit écran ou encore des clubs de football. Mais cette mesure, elle fait quand même pas l'unanimité. Hein. Il y a des associations qui suggèrent que l'État va publier maintenant la liste des créanciers de l'État portugais. Pourquoi pas? Bah, le gouvernement portugais, bah, lui, il fait la sourde oreille. Et il en a même rajouté une couche, puisque maintenant, ce sont les mauvais payeurs de la sécurité sociale, qui voient leur nom s'afficher sur Internet. Pour l'instant, ils ne sont que 10 sur cette liste, mais cela ne fait que commencer.
Eh ben voilà une fameuse idée contre le trou de la sécu. Merci beaucoup Olivier Bonamici.
Merci.
Hélène Chevalier, revenons sur ce fait qu'on peut nous tracer comme ça sur Internet dont vous parliez tout à l'heure. Le grand suspect pour côté privé, c'est Google.
Et oui, Google, le géant d'Internet que certains comparent même à Big Brother. Alors pourquoi l'entreprise de Mountain View fait si peur? Eh bien c'est parce qu'avec tous les services gratuits qu'elle propose, bien entendu le moteur de recherche, mais aussi Picasa qui gère les photos, Gmail pour la boîte mail, ou encore Google Maps pour la géolocalisation, et maintenant Chrome, le nouveau navigateur. Grâce à tous ces services, eh bien Google récupère des centaines et des centaines de données sur des millions d'internautes. Données qu'il conserve pendant 18 mois, enfin qu'il conservait pendant 18 mois, parce que le géant américain finit par céder aux pressions de l'Union européenne et va rendre anonymes les données au bout de 9 mois.
Alors que répond Google à tout cela? Écoutons Peter Fleischer, que vous avez interrogé, Hélène. Il est responsable Europe de la protection des données personnelles chez Google.
Vous croyez que c'est facile de trouver la page que quelqu'un cherche sur un web de 1000 milliards de pages? C'est quand même un défi considérable. Et donc c'est simplement des mathématiques, des algorithmes qui apprennent petit à petit, après chaque recherche, sur une manière statistique et générale, de trouver des résultats qui correspondent aux recherches des personnes. Alors c'est pour cette raison qu'on les stocke et on les analyse, mais je mets l'accent sur le fait que tout ça se passe de manière anonyme et statistique. Nous, on n'a pas besoin de savoir qui est la personne. On ne veut pas savoir qui est la personne qui fait, simplement le fait que des personnes en général, de manière statistique, ont fait telle ou telle recherche et par la suite ont cliqué sur tel ou tel résultat.
Ça vous aide en fait à améliorer le moteur de recherche?
Ben, en effet, parce que on veut trouver la page qui correspond au souhait de l'utilisateur.
On peut se dire aussi que c'est intéressant pour Google d'en savoir un peu plus sur une personne pour pouvoir cibler au niveau des publicités, par exemple sur le moteur de recherche, et qu'il y ait des publicités qui correspondent à son profil.
Oui, mais sachez, on peut faire ça sans savoir qui est cette personne. Le fait que quelqu'un, par exemple, tape le mot-clé « vol pas cher », on peut leur cibler une pub pour des vols low cost, sans savoir qui est la personne qui l'a fait.
Est-ce que ces réponses sont convaincantes?
Ce qui est sûr, c'est que Google fait d'énormes efforts pour montrer patte blanche, par exemple le fait qu'il divise par deux la durée de conservation des données. Ensuite, l'objectif de Google, c'est quand même de dominer Internet, donc on a du mal à croire que les dirigeants de Google soient totalement philanthropes, et donc sans être parano, soyons juste prudents.
Alors l'utilisation des données personnelles sur Internet ou CD-ROM par des entreprises privées, c'est l'objet d'un gros scandale en Allemagne. Bonsoir Bertrand Galichet.
Guten Abend.
Les Allemands ont réalisé cet été qu'il était possible d'acquérir des données personnelles de milliers de personnes, y compris les coordonnées bancaires.
Oui, il y a en fait plusieurs affaires qui sèment le trouble dans l'esprit du public. Ici, la plus retentissante ne concerne pas directement Internet, puisqu'il s'agit de données confidentielles, parmi lesquelles des numéros de compte bancaire qui ont été achetés par un centre d'appel téléphonique. Et c'est un employé de ce call center qui a donné l'alerte auprès d'une organisation de consommateurs. Il a fourni comme preuve un CD contenant 17 000 données, un simple échantillon, car au total, 1,5 million d'informations auraient été collectées par l'entreprise. Autre exemple, un agent fédéral a prouvé qu'il était possible d'acquérir un fichier de 6 millions de données pour 850 euros et après seulement 2 jours de recherche sur Internet.
Alors face à ces affaires, que dit la loi en Allemagne ?
Bien, les exemples que je viens de vous citer sont évidemment illégaux, car il s'agit de données confidentielles comme des numéros de compte bancaire. Et c'est un enjeu puisqu'aujourd'hui, 22 millions d'Allemands se connectent à des banques en ligne, notamment pour faire des virements. Vous savez qu'ici, presque personne n'utilise de chèque. En revanche, il est tout à fait légal d'acheter des informations issues de registres municipaux. Par exemple, plusieurs villes en Allemagne en font une source de revenus. Et puis, toujours dans le cadre de la loi, vous avez beaucoup d'entreprises qui vendent ou achètent des données sur Internet. C'est ce que m'a expliqué Dietmar Müller, porte-parole du BFDI. C'est l'équivalent en Allemagne de la Commission Informatique et Liberté.
Vous pouvez naturellement, en tant qu'entreprise, afin de gagner de l'argent, aller sur Internet pour chercher à regrouper beaucoup de données. Mais ce sont bien sûr des données que vous et moi avons fournies un jour. Et si quelqu'un veut faire un fichier commun de toutes ces adresses, il va y arriver. Et il peut ensuite mettre en vente ce fichier à nouveau sur Internet. Mais là arrive la question suivante. Ce commerce est-il légal? N'a-t-il pas besoin de l'accord des personnes concernées? Mais vous avez déjà donné votre accord, indirectement, parce que vous avez valorisé vos données en les inscrivant sur Internet. Jusque-là, ce n'est pas interdit. Puisqu'Internet est une source accessible au public. Il y a en Allemagne la loi de protection des données. Cette loi permet de délivrer des données de base. Aux données de base appartiennent le nom, l'adresse, l'année de naissance et encore d'autres petites choses, mais ce sont les plus importantes pour un négociant de données. Mais j'ai le droit à l'heure actuelle, si je ne le souhaite pas, dire « je ne veux pas de ça ».
Voilà, mais la loi va être modifiée, hein Bertrand ?
Oui, désormais, lorsque je ferai un achat sur un site allemand, pour un billet d'avion par exemple, eh bien je n'aurai plus besoin de cocher une case pour dire « je ne suis pas d'accord avec la transmission de mes données personnelles ». La confidentialité sera la règle et si je veux autoriser la diffusion de ces données, il faudra que je le précise. On inverse donc la charge de la preuve et ça change tout. Car les pouvoirs publics trouvent que les affaires révélées ces derniers mois font un peu désordre. Ils ont donc organisé il y a moins de 3 semaines une réunion autour du ministre de l'Intérieur Wolfgang Schäuble, qui a annoncé un renforcement de la protection des informations personnelles. En réalité, le souci du gouvernement allemand, c'est à la fois de protéger la vie privée des citoyens, un sujet hautement sensible ici, et puis de permettre à l'Internet de se développer, bien sûr, tout en rendant le système plus sûr. L'an dernier, l'escroquerie sur les transactions financières par Internet en Allemagne a augmenté de 25%.
Allez, dernière destination, je clique sur jacques.monin.uk. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter en Grande-Bretagne, chez vous le sport national c'est la perte de données et ça atteint des niveaux hallucinants.
Ah oui, vous pouvez le dire, ça a réellement commencé en novembre de l'année dernière lorsque les services fiscaux postent un organisme de contrôle de CD qui contiennent les données personnelles et bancaires de 25 millions de personnes, c'est pas rien quand même. Alors ce disque se perd, ça crée une polémique monumentale. Faut savoir qu'ici on peut facilement virer de l'argent, par exemple lorsqu'on connaît un compte bancaire. Un animateur télé de la BBC qui trouvait la polémique exagérée a d'ailleurs donné son propre numéro de compte à l'antenne et il s'est retrouvé une semaine après avec 800 euros de moins. Alors ça c'est qu'un début parce que depuis les services de santé ont égaré les coordonnées de 168 000 patients, puis 6 000 cartes d'assurés sociaux ont disparu, non attendez c'est pas fini, 6 000 permis de conduire et puis les coordonnées de 5 000 gardiens de prison ont été égarés sur 2 CD, là encore mis à la poste. À ça s'ajoute une série de vols d'ordinateurs militaires sur le disque dur de l'un d'eux volé à Birmingham, ça c'était en janvier dernier, figuraient les coordonnées de 600 000 soldats ou postulants à l'armée. Imaginez si un ennemi prend connaissance de ces données. Il y a encore eu en juin la perte de 2 dossiers ultra sensibles, dont certains relatifs à l'Irak et à Al-Qaïda, qui ont été tous les deux d'ailleurs perdus sur une banquette de train. Là, ça s'appelle de la négligence. Bon, j'arrête là, mais il faut savoir qu'en 4 ans, le ministère de la Défense a donné les chiffres cet été, ce sont 658 ordinateurs du ministère qui ont disparu.
Et que compte faire le gouvernement face à cette avalanche?
Après la première affaire, il y a eu une enquête, les rodomontades de Gordon Brown, qui à chaque fois juge tout ça inacceptable. Mais en fait, la seule véritable décision, c'est d'interdire à tout fonctionnaire de transporter des données non cryptées et évidemment d'envoyer des CD bêtement par la poste. Maintenant, il est difficile de venir donner des leçons aux fonctionnaires parce que la secrétaire d'État aux communautés, Hazel Blair, elle-même s'est fait voler son ordinateur. C'était dans sa permanence de Salford, près de Manchester, alors que le Premier ministre râlait déjà contre les précédentes affaires. Et puis la semaine dernière, encore, soit un an après la première affaire dont je vous parlais, sachez que 18 000 données personnelles appels des services de santé ont encore été égarés sur un disque dur par le trust qui gère l'hôpital de Whittington à Londres.
Internet informatique, ma vie sur la place publique, c'est un dossier que vous pouvez retrouver sur internet, franceinter.com.
Et elle continue girando, planeta musica.
Il s'appelle David Elmalek. Il a toujours ses origines israéliennes chevillées à l'âme et toujours un saxophone avec lui. Malek, l'album qui vient de sortir, il s'appelle Music from Source. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir.
Alors c'est un artiste français mais très attaché au folklore et à la culture israélienne.
Il faut dire qu'il a grandi jusqu'à ses 9 ans quand même en Israël. Et cet album c'est un grand voyage avec des compositions qui s'inspirent du folklore israélien, des musiques traditionnelles juives. David Elmalek les revisite avec un talent et une sensibilité très très personnelle. Vous l'entendez, on est très loin de l'exotisme et du folklore folklorisant. Ces mélodies, ces rythmiques, elles sont nourries de cet imaginaire, mais surtout de la nostalgie de l'enfance en Israël. Il y a aussi des embardées étonnantes vers un jazz totalement libre. Et puis tout de suite, on sent que ce saxo-là, c'est une vraie voix humaine. C'est un son unique.
Ouais, il a un son très particulier.
Et avec un souffle long, du lyrisme, de la douceur, de la fièvre aussi. Bref, on se dit qu'il a les chromosomes de Wayne Shorter, les chromosomes de Coltrane, de Stan Getz. Tout ça à lui tout seul. Alors retenez bien son nom, David Elmalek. C'est vraiment l'un des grands saxophonistes de sa génération. Et pourtant, il y est venu très tard au saxo. Il a commencé la musique, il avait 15 ans, avec une guitare. Et puis un jour, il livrait des glaces rue de Rome à Paris. Et là, il est tombé raide amoureux d'un saxo. Dans son jeu, il y a une force qui tient l'urgence. Surtout quand il se lâche dans des impros, il faut aller le voir sur scène. Vous savez d'ailleurs ce que disait un certain Jean-Paul Sartre sur le jazz. Le jazz, c'est comme les bananes, ça se consomme sur place.
David Elmalek, l'album s'appelle Music from Source et on vous met sur le site internet franceinter.com et pourtant elle tourne toutes les dates de ses concerts dans les prochaines semaines. Et nous allons maintenant au cinéma, les films étrangers à ne pas manquer cette semaine, ils sont venus en force pour en parler. Bonsoir Eva Bétan.
Bonsoir.
Bonsoir Cyril Sauvage.
Bonsoir.
Et d'abord Eva, un documentaire, cela s'appelle Standard Operating Procedure, oui. Film américain. Le point de départ sont les photos de détenus irakiens torturés par les GIs à la prison d'Abu Ghraib en Irak. Le réalisateur, qui s'appelle Errol Morris, oui, a enquêté pendant 2 ans. Il a retrouvé les soldats.
Il est parti des photos, il a retrouvé les soldats. C'est un documentaire à tous égards exceptionnel parce qu'une photo ne nous dit pas tout. Une photo nous dit aussi ce qu'elle a choisi de nous dire. Par exemple, la photo où, célèbre, tristement célèbre, où on voit une jeune femme tenir en laisse, entre guillemets, un soldat irakien. Cette photo a été cadrée d'une certaine manière et on ne voit pas qu'il y a une autre jeune femme dans le cadre qui la regarde faire. Ça veut dire aussi qu'il y avait bien sûr des témoins en plus de la personne qui a pris la photo. Mais faire parler les gens, c'est dire aussi tout le contexte, dire aussi ce qu'était cette prison. Il fait parler les détenus, les soldats. Il fait parler aussi un haut gradé, la générale Janice Kapinski, qui a ensuite été relevée de ses fonctions, qui parle parce qu'elle est furieuse d'avoir été bouc émissaire. Elle dit aussi que les ordres venaient de très haut, venaient du ministre de la Défense. Elle dit aussi que les prisons étaient surpeuplées. Nous ne sommes pas dans quelques cas isolés. Il y a des dizaines de milliers de soldats qui sont passés là. C'était un immense centre de torture. On voit tout ceci en plus n'a servi à rien. Comme dit cette femme générale, elle dit on était obsédé par l'idée de trouver Saddam Hussein. Mais c'est absolument pas grâce aux renseignements fournis par les interrogatoires qu'il a été trouvé. Ça a été par l'armée régulière. Donc on voit finalement les photos ont servi de révélateurs et elles ont servi aussi de masques parce qu'on s'est en quelque sorte arrêté aux photos, mais on comprend à travers ce documentaire qu'il s'est passé là des choses inimaginables.
Alors un petit extrait, c'est une militaire qui s'exprime.
I have a bad feeling about this place. The prison is called Abu Ghraib. 30,000 people were murdered here. There's a chamber where these men were hung. I'm not sure about ghosts, but it is freaky. I'm hoping to be home for Christmas or soon after. I love you. Sabrina.
Elle s'appelle Sabrina, elle écrit à ses proches « Je sens pas du tout cet endroit, on a tué 30 000 personnes, il y a une pièce où les gens sont pendus, c'est effrayant » et elle ajoute « J'espère être avec vous à Noël » puisqu'elle s'adresse à des proches.
Alors,
on réalise l'énormité de ce qui s'est passé.
Et en même temps c'est intéressant parce que on peut pas dire qu'elle reconstitue après coup, ces lettres, elles ont été trouvées, elle les a écrites dès le début. Cette femme va se retrouver elle aussi compromise parce qu'elle a pris des photos, notamment des photos d'un détenu mort, mais elle n'est pour rien dans la mort du détenu. Donc il y a aussi toute l'ambiguïté entre qui a été pris, qui n'a pas été pris. Il n'y a pas de haut gradés qui ont été pris. Il y a ça, et on voit aussi comment effectivement, on est dans une sorte de zone de non-droit, parce que les gens sont probablement mal encadrés, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce qu'il a pu se passer ces choses incroyables, d'une personne, le fameux Garner, qu'il n'a pas pu interroger parce qu'il est en prison, qui fait faire des sortes de pyramides humaines de soldats irakiens. On voit aussi une chose qui est absolument incroyable. Il y a un policier qui parle, il est chargé de faire le tri parmi les photos, de voir ce qui était vraiment de la torture et ce qui était des standard operating procedures, c'est-à-dire des choses qui étaient admises dans le cadre d'interrogatoire. C'est-à-dire, il n'était pas admis de faire ces pyramides humaines, parce que c'est assimilé à sévices, à des sévices plus de caractère sexuel, mais il est par exemple admis de mettre en position de stress quelqu'un pour le faire parler, par exemple de l'attacher dans le dos avec une culotte sur la tête. Ou bien, il est admis c'est une photo qui était d'une célèbre, de mettre un homme en position de stress là aussi, avec ce qui semblait être des fils électriques sur les bras, et sous prétexte que ce ne sont pas de vrais fils électriques, on dit que ce n'est pas une torture. Donc on voit que la limite, elle est extrêmement étroite entre ce qui est considéré comme un service entre guillemets toléré et de la torture. Moi j'ai vu ce documentaire deux fois, il donne vraiment à réfléchir parce que il vous montre des choses et sur chaque chose on a envie de faire arrêt sur image pour réfléchir davantage.
Ça s'appelle Standard Operating Procedure et ça sort mercredi. L'autre film à suivre cette semaine est américain également, mais il nous plonge dans une ambiance radicalement différente. Extrait de la bande originale de Wackness. Voilà, là on est dans une époque, dans un lieu, Cyril Sauvageau, milieu des années 90, New York.
Le réalisateur de Wackness, Jonathan Levine, avait lui-même 18 ans au milieu des années 90. Il a grandi dans Manhattan au son du hip-hop new-yorkais et c'est très certainement une part de sa propre adolescence qu'il fait revivre aujourd'hui dans cette chronique douce amère. Il y a une dimension générationnelle évidente. Wackness parlera avant tout aux trentenaires, déjà nostalgiques de leurs jeunes années. Il faut croire que Levine a touché une corde sensible puisque le film bénéficie d'un joli bouche à oreille aux États-Unis où il a remporté notamment le prix du public au dernier festival de Sundance. Nous sommes donc à New York en 94, c'est le début de l'été. Les lycéens partiront bientôt pour l'université. Parmi eux, il y a Luc Shapiro, un jeune type un peu solitaire, mélancolique, qui a tendance à ne voir que the wackness, comme disent les Américains, c'est-à-dire le côté sombre de l'existence. Peu de copains, pas de petite amie, rien de spécial à faire. Alors, Luc passe l'essentiel de son temps à fumer des pétards et à vendre de l'herbe pour se faire de l'argent de poche.
Et Luc le sombre croise le chemin d'un psy qui est paumé lui aussi.
Un psy en pleine crise existentielle, déprimé par ses patients, par l'échec de son mariage. Le docteur Squires, alias Ben Kingsley, va conclure un drôle d'échange avec Luc. Il lui offre des séances de psy en échange de quelques sachets de cannabis. L'ado et le médecin vont passer un bout d'été ensemble et questionner leurs existences. Voilà, en gros, l'idée du film. Histoire racontée avec beaucoup de sensibilité, de justesse. Les deux acteurs sont excellents. Ben Kingsley, assez déjanté, et le jeune Josh Peck dans le rôle de Luc. Il y a un vrai talent pour la mise en scène aussi, une façon de reconstituer l'époque avec plein de petits détails dans les décors, la musique, la bande son impeccable avec tous les rappeurs new-yorkais de l'époque. Et puis la peinture de New York, il faut dire que ça correspond à un moment bien particulier dans l'histoire de la ville, comme nous l'a raconté le réalisateur Jonathan Levine.
A huge thing going on in New York at the time was the,
à cette époque, New York était en plein changement. Giuliani venait de créer le maire, il s'efforçait de nettoyer la ville de bien des manières. Et j'ai voulu faire un parallèle avec ces deux personnages qui cherchent à faire le ménage dans leur propre tête. J'aime bien cette métaphore. Ils essayent de se débarrasser de leurs idées noires, de la même manière que New York a essayé de se débarrasser de ses sans-abri et de ses criminels. Mais comment s'y prendre? Faut-il se confronter aux problèmes ou tenter de les dissimuler? À une autre échelle, la ville de New York a dû aussi résoudre ce dilemme. Le personnage de Luc est très proche de l'adolescent que j'étais à l'époque. Son rapport à la vie, ses goûts musicaux. Mais son histoire n'est pas la mienne. Je n'ai jamais vendu d'herbe dans la rue, je n'ai jamais eu de psy. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup d'affinité avec lui. D'ailleurs, à chaque fois que je vois le film ou que je le montre, ça me fait quelque chose.
Jonathan Levine, voix off de Frank Madvon. Les deux films américains qui sortent ce mercredi et que vous conseille la petite équipe sont donc Wackness et Standard Operating Procedure.
All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the line.
All the girls standing in the line.
All the girls standing in the line.
Super Power Bloke. Five ways to save the planet.
Et pourtant il tourne, Bruno Duvic.
Chronique du Monde, Luc Lemonnier, aujourd'hui et demain en direct de New York, où s'ouvre demain l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et à l'ONU, on parle de pirates. Deux Français ont été libérés la semaine dernière après avoir été otages de pirates somaliens pendant 15 jours. Leur voilier avait été abordé dans le golfe d'Aden. Les actes de piraterie se multiplient dans cette région. Et Nicolas Sarkozy, qui participe à l'Assemblée Générale de l'ONU, voulait absolument parler de ce sujet, Luc Lemonnier.
Oui, bonsoir Bruno. Effectivement, le secrétaire général de l'ONU a invité Nicolas Sarkozy à déjeuner à sa résidence, c'est en ce moment même. Et la piraterie est effectivement l'un des sujets de discussion. Cette industrie du crime, comme l'a qualifié le président, qui a dû, il est vrai, ordonner cette année deux opérations commando au large du golfe d'Aden pour libérer le Ponant et le Caredas, et qui doit aussi répondre à l'inquiétude des marins pêcheurs européens qui, après des tirs de roquettes contre l'un des leurs, ont préféré tout simplement quitter les eaux somaliennes en attendant des escortes militaires. Il faut bien reconnaître que depuis le début de l'année, les pirates somaliens multiplient les initiatives en tout genre. Cargo, bateaux de pêche, navires de plaisance, tout ce qui avance à moins de 15-20 nœuds est une proie facile pour les vedettes rapides, leurs pirates et leurs lance-roquettes. Alors, une soixantaine de navires ont été attaqués cette année, 11 d'entre eux et leurs équipages sont retenus en otage. Les rançons réclamées vont de 300 000 à 2 millions de dollars. Ça dépend des nationalités et bien sûr du chargement du bateau. Alors des comptes bancaires à Dubaï, des intermédiaires, des négociateurs, tout est très bien organisé jusqu'à l'apparition, et c'est assez nouveau, de sortes de navires amiral, des bateaux qui se positionnent très au large des côtes sur les rails de navigation, qui sont renseignés par des pêcheurs espions et qui servent de port d'attache, d'où les vedettes rapides lancent leurs opérations éclairs. En moins d'une demi-heure, en général, tout est terminé. Le bateau attaqué a changé de main, il fait route vers le Puntland, cette zone grise somalienne. et les négociations financières peuvent alors commencer.
Et la France va prendre des initiatives pour lutter contre cette piraterie.
Effectivement, la France a l'intention de déposer un projet de résolution devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce serait d'ailleurs la troisième résolution sur le piratage. Il s'agit d'alerter la communauté internationale sur la nécessité de mettre en place une sorte de police des mers et de mener, pourquoi pas, des opérations punitives. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, y est plutôt favorable. Aujourd'hui, il y a bien une force aéronavale sur zone, mais elle escorte seulement les cargos qui acheminent de l'aide alimentaire à la Somalie. Les armateurs, les pêcheurs, les marins-pêcheurs réclament eux aussi une protection, des escortes, des convois. Certains envisagent même d'armer les équipages ou de former les marins au tir de précision pour immobiliser à distance les vedettes rapides, voire pour les couler. Scénario, vous le voyez, de Far West, risque de bataille navale, de surenchère. Il est temps que la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU prennent des mesures radicales, car il n'y a pas que le golfe d'Aden et la Somalie, le Nigeria, les côtes indiennes, le détroit de Malacca, la sortie de Singapour, autant de zones extrêmement dangereuses pour les navires isolés qui sont souvent transformés en machines à sous.
Luc Lemonnier, à demain à New York. Encore du ciné américain à la une, cette fois d'Un jour sur la toile. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Bruno.
Avant même de sortir dans les salles, le dernier film de Michael Moore va être accessible gratuitement sur le net, au moins en Amérique.
Oui, 20 ans après son premier film documentaire Roger et moi, qui racontait, je vous le rappelle, l'impossible track du patron de General Motors dans la ville natale de Michael Moore à Flint, Michigan. Eh bien, l'auteur oscarisé et palmedorisé de Bowling for Columbine et Fahrenheit 9/11 a décidé de faire ce cadeau à ses fans. C'est une première sur Internet. L'intégralité de ce film d'1h37 sera donc téléchargeable gratuitement pendant 3 semaines. Et il ne sortira pas en salle, il sera uniquement visible sur Internet. Et uniquement, en effet, si vous résidez aux USA ou au Canada, c'est une question de droit d'exploitation. Les autres peuvent toujours commander un bon vieux DVD via le site. Alors la bande-annonce, les photos, extraits, commentaires sur slackeruprising.com donnent un assez bon aperçu. C'est un film sur la tournée de Michael Moore dans 20 États américains. Tournée effectuée lors de la campagne présidentielle de 2004, de meeting en meeting, accompagné de musiciens comme John Baez ou le groupe REM et de comédiens, le réalisateur à l'inamovible casquette harangue les foules de jeunes gens pour les inciter à aller voter.
Alors, Slacker Uprising, on peut traduire ça par debout les fainéants, et le ton est effectivement à la harangue.
All of us are committed to keeping this movement going.
Voilà, c'est Michael Moore avec son talent et son côté un peu agaçant aussi.
Oui, c'est vrai qu'après avoir échoué à faire battre Bush en 2004, le documentariste dont l'engagement à gauche n'est pas un mystère espère cette fois barrer la route au candidat républicain John McCain. Alors comme toujours avec Michael Moore, on va droit au but. Alors il y a des choses intéressantes d'ailleurs. Le site du film renvoie sur un autre site qui s'appelle Rock the Vote, qui propose d'aider les jeunes citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Il suffit de remplir un formulaire en ligne et un formulaire qui est ensuite transmis aux administrations concernées. Ça c'est pour le côté sérieux. Mais comme chez Michael Moore, la fin justifie toujours les moyens les plus farfelus. On le voit promettre une distribution de slips de rechange et de paquets de nouilles séchées. Visiblement une des nourritures préférées des ados américains à ceux qui viendront à ces meetings. Coup de chance pour le polémiste qui n'aime rien tant que faire parler de lui. Certains républicains menacent de porter plainte pour corruption d'électeurs. Ce que la presse appelle aussitôt le Noodlegate, le scandale des nouilles. Alors c'est plutôt drôle, c'est vrai. Le problème c'est que Michael Moore, l'iconoclaste, se prend de plus en plus au sérieux quand il raconte comment on a voulu l'arrêter, comment dans 2 universités, des donateurs ont offert des milliers de dollars pour que ces conférences soient annulées, mais que rien n'a pu empêcher la marée humaine de jeunes enthousiastes d'accourir. Michael Moore est si persuadé de prêcher la bonne parole qu'il devrait se méfier, il est à 2 doigts de l'auto-béatification.
Corinne Audouin, Un jour sur la toile. Après les harangues de Michael Moore, on fait un peu retomber la pression. Melody Gardot, Quiet Fire, c'est le choix de Djoubaka ce soir.
Quiet Fire. What you will. woman's eye on me. 'Cause all I want is somebody to love me like I do. Oh, well, all I want is somebody to love me like I do. Oh, nothing left to say but bye, bye, blue eyes and eyes. Oh, you know that I.
Melody Gardot, Quiet Fire. L'album s'appelle Worrisome Hearts et la pression remonte.
Bueno, vuelve España. Me parece que es confirmado lo que te dije, ¿no? Banda derecha toda para Ramos. Metemos futbolistas por dentro. Ahí va la bola para Silva. Silva para Xavi. La quiere poner la bola segunda para. ¡Gol! ¡Gol! ¡No, España! El día 29.
El Rio 29 et 29 juin dernier, l'Espagne battait l'Allemagne en finale de l'Euro 2008 de foot 1-0 au but de Fernando Torres à la 33e. C'était le sommet d'une année de sport pour l'Espagne, mais il y a eu bien d'autres victoires. Bonsoir Pierre Querol.
Si señor, buenas tardes Bruno.
2008, année de l'Espagne en sport, ce week-end encore.
Oui, absolument, il n'arrête pas de gagner partout. Le tennis, le Nadal, eh bien, il se promène. Il est surnommé ici le nouveau roi, il a remporté Roland-Garros, puis Wimbledon. Et il a raflé la médaille d'or aux Jeux de Pékin. En cyclisme, vous y faisiez allusion, Sastre a remporté le Tour de France, mais Alberto Contador, le Giro d'Italie, et donc hier ou avant-hier la Vuelta.
Oui,
après le Tour de France en 2007, eh bien ce Contador, il a enlevé les trois principales épreuves cyclistes, rejoignant ainsi quatre légendes du vélo, Anctil, Hino, Merckx et Gimondi. L'Espagne, enfin, je peux pas citer tous les succès, mais a remporté 19 médailles à Pékin, plus que prévu, dont une qui vaut de l'or, elle est en argent, en basket face aux Américains, grâce à son idole Pau Gasol des Lakers de Los Angeles. Et à résultat, les Espagnols, évidemment, sont très fiers, à juste titre. Les Français ne le seraient pas moins. Et quand ils engrangent une nouvelle victoire, eh bien, les supporters entonnent le désormais célèbre ici. Yo soy español, español. Je suis espagnol. Espagnol, ce n'est pas peu dire de la fibre patriotique ambiante.
Vous le faites très bien. Il y a une explication à tous ces succès, à tous ces succès.
Oui, il y a plusieurs hypothèses. Il est indéniable que le gouvernement Zapatero a travaillé, des salles de terrain de sport ont été construites, des crédits ont été augmentés, mais il y a une autre explication historique, celle-là. Cette nouvelle génération de sportifs espagnols est née à peu près une dizaine d'années après la mort de Franco, décédé en 75. Ils ont donc grandi dans une Espagne plus saine, plus riche, qui leur a permis de se développer mieux. Ils ont pratiqué des sports jadis réservés aux riches. Le bond en avant économique de l'Espagne ces dernières années explique sans doute cette progression du sport dans ce pays, Bruno.
Allez, Pierre Querol, je vous laisse remettre votre survêtement. Et bonsoir Marie-Pierre Planchon.
J'enfile le mien, bonsoir Bruno.
Alors qu'Haïti observe 3 jours de deuil en hommage aux 326 personnes tuées par les ouragans ces dernières semaines, eh bien une nouvelle dépression arrive.
Et oui, le centre d'ouragan national de Miami prévoit dans les 24 heures un risque élevé d'une dépression qui est en train de se développer dans les Caraïbes. Porto Rico et les îles Vierges américaines ont déjà été touchées par de fortes pluies de vents violents. Ces vents peuvent donc encore s'intensifier et se déplacent vers le nord-ouest, en direction de la République dominicaine et Haïti. Donc, 2 semaines seulement après la dernière des 4 tempêtes consécutives qui a dévasté Haïti, la région est de nouveau menacée et la perspective d'une autre tempête est très inquiétante car l'île compte déjà 1 million de sinistrés. D'ailleurs, la ville de Gonaïves, qui est située à l'ouest d'Haïti, est encore dans la boue et certains habitants n'ont rien mangé depuis 3 ou 4 jours et dorment encore sur les toits des maisons. Les routes sont pratiquement impraticables et les récoltes sont en grande partie détruites. L'ONU est d'ailleurs intervenue pour fournir de l'eau et de l'aide alimentaire.
Et le gouvernement français aussi a envoyé de l'aide.
Effectivement, le navire Francis Garnier est arrivé hier à Port-au-Prince avec une cargaison pour venir en aide aux sinistrés. Le navire apporte environ 165 tonnes d'aide, dont 70 tonnes stockées en Martinique par le gouvernement français pour intervenir n'importe où dans les Caraïbes. Et puis, il y a également 70 tonnes données par la Croix-Rouge française et 25 tonnes collectées par les associations en Martinique et en Guadeloupe en solidarité avec les Haïtiens. Et par ailleurs, 60 pompiers aussi sont venus de Martinique pour aider donc les villages inondés en Haïti. Et malheureusement, la saison n'est pas encore terminée et les experts pensent que peut-être encore 3 ou 4 ouragans pourraient toucher encore cette région d'ici là.
Marie-Pierre, à demain. Manchon, à demain. Les yeux au ciel et pourtant elle tourne. Clap de fin imminent. Merci au double mixte de l'émission Nathalie Poitevin, Jacques Sigal. Merci aussi aux deux juges de ligne du jour, Claudine Lapersonne et Axel Brizard à la console. Demain, un invité exceptionnel dans Et pourtant elle tourne, Paolo Conte, à l'occasion de la sortie de son nouvel album Psyché. Il sera en studio avec nous.
Yo soy espagnol, espagnol.
Le film d'Olivia Sayas, L'heure d'été, sort en DVD. Un été, une maison de famille, la disparition d'une mère, trois générations confrontées aux encombrants objets du passé.
Elle disait qu'après sa mort, la maison serait vendue.
Mon souci, c'est qu'on soit tous d'accord.
Une chronique familiale universelle et émouvante avec Juliette Binoche, Charles Berling, Jérémy Régnier et Edith Scob. L'heure d'été d'Olivia Sayas, un DVD France Inter.
L'Institut Pasteur lance le deuxième Pasteur Don.
On est près du but et pourtant on n'y arrive pas. Et gagner cette petite marge demande autant d'énergie que tout ce qui a été fait avant, donc on se bagarre pour ça.
Maladies infantiles, maladies infectieuses, génétiques ou tropicales, l'Institut Pasteur mène des recherches sur tous les fronts au service de votre santé. Reconnu grande cause nationale 2008, l'Institut Pasteur a besoin de vos dons. N'attendez plus, faites un don sur pasteurdon.fr.
Il sera bientôt 17h sur le glacier Vatnajökull en Islande, 19h à Paris.